Dun dun da dun, dun dun da dun.
L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Aider les victimes à distance de leur traumatisme pour les libérer des violences intrafamiliales qu'elles ont pu subir, c'est l'ambition de l'association Douce Sœur. Créée en janvier dernier par Laetitia et Maxence Besson, psychanalystes et médecins, ils proposent aux victimes un suivi psychologique une fois le temps de l'urgence passé. L'idée est de proposer une aide supplémentaire sur un temps long aux personnes qui auraient besoin d'échanger à nouveau. Nous avons reçu Laetitia Besson, psychanalyste, avec laquelle nous avons parlé de cette nouvelle association, mais aussi des différents types de violences qui existent, ainsi qu'aux problématiques psychiques liées à des traumatismes.
On lui laisse la parole juste après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves.
La nuit de l'alternance fait ses débuts à Bourg.
La mission locale jeune Bresse-Dombes-Côtière organise la première édition de la Nuit de l'Alternance, mardi 28 avril 2026, de 17h30 à 20h, au marché couvert de Bourg-en-Bresse. L'événement vise à mettre en relation jeunes, entreprises, centres de formation et partenaires de l'emploi autour des opportunités de l'alternance. Pensée comme un temps d'échange direct, la soirée permettra aux recruteurs de proposer des offres et de rencontrer des candidats ou de déposer des candidatures via une boîte aux lettres. L'objectif, faciliter l'insertion professionnelle et renforcer la dynamique locale autour de l'alternance.
Chantier lancé sur l'A40.
Nouvel aménagement à hauteur du diffuseur numéro 8 de l'A40 entre Maya et Saint-Martin-du-Frêne. L'objectif est de sécuriser les déplacements et structurer le covoiturage avec la création d'un rond-point à 5 branches sur la route départementale 1084 et d'une aire de stationnement de 49 places. Le chantier, engagé le 7 avril, doit durer 7 mois. Il répond à une situation de stationnement anarchique liée au manque d'infrastructures. Il prévoit aussi l'aménagement d'arrêts de bus sécurisés et des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Des perturbations sur cette portion sont donc à prévoir jusqu'à l'été, avec une circulation par feu alternée, des travaux de nuit et des déviations. Coût global du projet, financé notamment par le département, APRR et Aubugé Agglomération, dépasse 1,7 million d'euros.
Chenilles processionnaires, vigilance avec l'arrivée du printemps.
Avec le retour des beaux jours, les chenilles processionnaires du pin et du chêne font leur retour un peu partout en France. L'Office national des forêts alerte sur les risques sanitaires liés à leurs poils urticants qui peuvent provoquer des réactions allergiques sévères chez l'humain et des complications graves chez les animaux. Leur développement est favorisé par le réchauffement climatique et s'accompagne de processions visibles au sol et de nids dans les arbres. Les autorités locales recommandent de se tenir à distance des zones infestés et de redoubler de prudence en forêt, notamment avec les chiens.
L'un dans l'autre, l'interview.
À notre micro cette semaine, Laetitia Besson, qui est à l'initiative de l'association Douce Sœur, créée récemment. Son but, venir apporter un soutien psychologique aux personnes victimes, notamment de violences intrafamiliales dans l'enfance. Elle a une formation de psychanalyste de couple, elle a suivi des études de psychologie à l'université Lumière Lyon 2, elle a travaillé dans le milieu associatif, aussi en centre hospitalier, au sein du pôle mère-enfant de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, pendant une dizaine d'années. Sa trajectoire professionnelle s'est construite autour de l'aide aux femmes et aux couples. Aujourd'hui, on lui a posé la question de ce qui l'a amené vers les questions des violences intrafamiliales.
Quand on travaille dans ces milieux-là et qu'on touche aux problématiques psychiques très intimes, on s'aperçoit vite que derrière la souffrance, normalisée que les personnes vivent au quotidien, il y a eu un passé de victimes de violence. Voilà, c'est ce repérage en fait qui m'a tout doucement fait glisser vers des formations plus spécifiques sur l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences. Et puis des victimes de l'inceste. Hein. Alors je répète, hein, hommes, femmes et enfants, hein, puisque l'inceste ne touche pas que les femmes.
Est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'inceste ?
Oui, l'inceste, c'est un rapport de domination des hommes sur le corps des enfants. Hein. C'est un abus sexuel, un viol qui est commis sur un enfant donc mineur. Et dans les cas d'inceste, ça se fait au sein de la cellule familiale, hein, frères, sœurs, ascendants, oncles, tantes, les grands-parents, enfin tout ça, tous les ascendants. Donc un rapport sexuel non consenti, forcément, donc une violence sexuelle.
Ces violences, vous qui avez du coup travaillé pendant de nombreuses années, on le disait, dans le secteur médico-social et hospitalier, qu'est-ce que ces expériences de terrain vous ont appris sur la réalité des violences au sein des familles ?
Alors déjà, moi, je m'informe énormément sur les statistiques qui sortent concernant les victimes de violences intrafamiliales et plus particulièrement les victimes de violences sexuelles. Il faut savoir que les chiffres disent qu'environ 20% des femmes vont dans leur vie subir une violence sexuelle ou ont vécu une violence sexuelle. Et dans ces 20%, on peut considérer que 5% des femmes ont subi un inceste. Ça, c'est une statistique, par exemple. D'autres statistiques, hein, qui sont plus élaborées et un peu plus fouillées, montrent que 10% des adultes ont subi un inceste. Alors, on peut penser que c'est difficile d'avoir des chiffres réels, hein, puisque toutes les victimes ne parlent pas. Donc, c'est assez bien sourcé. Hein, il y a des anthropologues ou des sociologues qui ont fait des études bien fournies, hein, à ce niveau-là. Et donc, il semblerait que 10% de la population ait vécu un inceste. Donc, quand on regarde une classe moyenne, hein, de 30 élèves, 3 élèves sont touchés par l'inceste.
Alors même si on a des études, ça reste tabou, l'inceste aujourd'hui ?
Oui, oui. Alors on parle de tabou de l'inceste, moi je parlerai plus du tabou de la parole autour de l'inceste. Parce que pourquoi considérer que l'inceste est aussi tabou alors qu'il est aussi fréquent ? Ce qui est en revanche très tabou, à mon sens, hein, c'est la parole des victimes de l'inceste. Hein. Parler de l'inceste, c'est difficile. Les proches sont dans un déni très souvent. Les auteurs d'inceste reconnaissent pas ce qu'ils font, le dénigrent. Donc, on s'aperçoit quand on travaille dans ce milieu-là, hein, que c'est plutôt la parole de la victime qui est taboue, hein, qui est difficile à faire advenir, en fait. Et la justice n'aide pas là-dedans, hein, puisque il y a un rapport de l'ONU qui montre que la France ne fait pas ce qu'elle devrait faire par rapport aux autres pays pour lutter contre l'inceste.
C'est-à-dire
que les condamnations sont plutôt en baisse, hein, dans les tribunaux. Depuis 2005, ce qui veut dire que le nombre d'incestes ne diminue pas, mais les condamnations, elles, diminuent. Et autant il est difficile de porter plainte, mais quand on porte plainte, on n'est pas assuré que la plainte aille jusqu'au bout. Puis il y a ce problème aussi de prescription. Les victimes d'inceste n'en gardent pas forcément la mémoire. Donc cette difficulté empêche les victimes de porter plainte, puisque parfois la mémoire de l'inceste, hein, du viol, du traumatisme, peut advenir des années, voire des décennies après ce qui s'est passé. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des associations qui luttent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prescription concernant l'inceste, justement pour faire en sorte que des victimes, hein, qui s'aperçoivent tardivement dans leur vie qu'elles ont été victimes, puissent quand même aller jusqu'au bout d'un processus juridique.
Comment on peut faire pour l'entendre, cette parole des victimes de l'inceste ?
Alors, en fait, quand on lit ce qu'il y a quand on lit la littérature qui est spécialisée dans le traitement des violences sexuelles et plus particulièrement de l'inceste, on s'aperçoit que les enfants parlent. On s'aperçoit aussi que les adultes plus tard parle, mais que personne ne reprend cette parole. Hein. Même ce que je vois fréquemment dans mon cabinet, hein, c'est que les victimes parlent aux parents, parlent aux frères et sœurs, mais que cette parole reste lettre morte, en fait. Donc la première des choses qu'on pourrait faire, déjà, c'est soit individuellement, hein, c'est écouter ce que chacun a à dire de son vécu traumatique et ne pas regarder ses chaussures à ce moment-là, ne pas baisser la tête. Hein, mmh. C'est l'entendre, c'est de pouvoir poser des questions, demander si la personne a besoin d'en parler, l'orienter. Il faut savoir aussi que dans la formation des médecins, c'est presque un non-sujet.
D'accord. Quand vous dites médecin, n'importe oui. quel type de médecin, ils n'ont pas de formation sur ce volet-là.
Oui, oui, oui. Je peux me permettre de le dire parce que je travaille dans cette association avec mon mari qui est médecin. Et ce qu'il a appris des violences intrafamiliales, il l'a appris après son cursus d'étudiant en médecine. Hein, il l'a appris sur le tas avec des apports personnels qu'il est allé chercher.
Alors justement, en janvier dernier, vous avez créé l'association Douceur
oui.
avec le médecin Maxence Besson. Comment est née cette initiative et peut-être quel manque souhaitez-vous combler dans l'accompagnement des victimes?
Oui, alors moi, après avoir travaillé donc 10 ans en milieu hospitalier, je me suis arrêtée de travailler un temps parce qu'on a 4 enfants. Mais j'ai voulu quand même continuer de m'investir dans cette thématique hein, qui me tient vraiment à cœur. Donc j'ai travaillé dans le réseau violence intrafamiliale de la région de Mâcon, puisqu'on vient de Mâcon. Et mon mari, à ce moment-là, m'a rejoint et est devenu médecin référent du réseau VIF Mâconnais-Beaujolais. Donc ça, c'est une activité que j'ai eue en tant que bénévole. Ensuite, on s'est installé ici dans la région. Et moi, j'ai voulu créer quelque chose qui nous ressemble et qui ne marche pas sur les plates-bandes des associations locales qui fonctionnent déjà très bien. Donc on a voulu créer une association solidaire qui accueille les victimes dans l'après-coup. Puisque sur le réseau burgien, il y a déjà des associations hein, qui accueillent les victimes quand elles sont dans l'urgence du vécu, du traumatisme. Nous, on a voulu plutôt se centrer sur l'après. C'est là qu'il y a, à mon avis, un grand vide hein, associatif ou même institutionnel. Hein. Donc l'association accueille les victimes dans l'après-coup, celles qui ne sont plus dans une situation d'urgence et qui ont besoin de soutien pour gérer les psychotraumatismes liés à la violence intrafamiliale.
C'est ce que j'allais vous demander, comment ça se manifeste l'après? C'est du post-traumatique? C'est quoi?
Oui, alors les États-Unis ont théorisé sur les troubles du stress post-traumatique à partir des vétérans de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on sait que les victimes de violences intrafamiliales souffrent de ce même stress post-traumatique. Et la particularité, c'est que c'est un traumatisme qui prend ses racines dans la psyché, bien sûr, mais qui déborde dans le corps. 20% des personnes qui vivent avec un trouble du stress post-traumatique souffrent de maladies chroniques hein, qu'on peut directement lier au traumatisme qu'elles ont vécu. Donc c'est relativement important, hein. Il y a des évitements sociaux, de l'hypervigilance, une difficulté à prendre soin de son corps. Il y a énormément de symptômes en fait qui continuent de résonner dans la vie après le traumatisme.
Des traumatismes donc de violence intrafamiliale, est-ce qu'on peut aussi les définir? On a parlé de l'inceste.
Oui.
Alors quels peuvent être les autres types de violences?
Oui, alors c'est toute la violence qui est faite au sein de la famille, hein, pas que la violence sexuelle. Hein, donc il y a aussi toute la violence conjugale, la violence au sein du couple, bien sûr. La violence physique, en dehors de l'inceste, la violence physique, la maltraitance faite aux enfants. Mais il y a aussi tout le volet conjugal, hein, donc les violences faites au sein du couple, les violences physiques, les violences économiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles.
Et alors, concrètement, comment se déroule l'accompagnement proposé par Douceur pour des personnes qui auraient subi ce type de violence?
Oui, alors on a voulu que ce soit justement une association solidaire. C'est pour ça qu'on a mis en place une grille de tarifs, avec des tarifs de consultation qui sont très symboliques, puisque une personne qui n'a pas de ressources ou qui a des ressources inférieures au SMIC paye 1 euro la consultation. Et ensuite, il y a un tarif qui s'applique en fonction des revenus, mais on reste dans des revenus qui sont vraiment, enfin dans des tarifs qui sont vraiment très symboliques. L'idée, c'était de faire en sorte que toutes les personnes qui ont vécu un traumatisme puissent se tourner vers un lieu où on pourrait les prendre en charge sans que l'aspect financier soit problématique.
Dans notre société, on se rend compte aussi que les violences dont on parle dans cet échange restent largement minimisées, voire invisibilisées. Il y a eu le mouvement MeToo, mais on peut se demander pourquoi cela reste encore compliqué d'aborder ces sujets qui restent cachés. On a demandé là aussi l'avis de Laetitia Besson sur cet aspect.
Oui, alors le mouvement MeToo, vous faites bien en parler. On a vu pendant ce mouvement énormément de personnes qui ont commencé à parler des violences sexuelles qu'elles avaient rencontrées dans leur sphère, dans la sphère professionnelle, par exemple. Oui. Mais le mouvement MeToo Inceste a eu du mal à émerger, tout simplement encore là, parce qu'on parle de ce tabou-là. Alors la question du tabou autour de l'inceste, elle est très prégnante et il faudrait la voir avec à l'éclairage de plusieurs spécialités des sciences humaines. Déjà, c'est à mon avis une question de domination sur le corps de l'enfant. Donc il y a un courant derrière très masculiniste. On s'approprie le corps de l'autre et on jouit avec. Il y a aussi tout un pan de la perversité qu'il faut prendre en compte, puisque la pédocriminalité, classiquement, on pourrait dire que c'est une utilisation perverse, pareil, de la jouissance d'un adulte sur un enfant. Dans la société, en fait, c'est difficile de pouvoir parler de cette violence faite aux enfants. Je n'aurais pas de réponse comme ça académique à apporter. Ouais.
C'est compliqué. Et c'est vrai que le côté intrafamilial, de voir que la violence peut être créée au sein de la famille aussi, qui est censée quand même être un sanctuaire de sécurité, voilà. Ça aussi, c'est encore compliqué.
Voilà, peut-être parce que on grandit, on est élevé avec cette espèce de fantasme que la famille est forcément bienveillante, que les liens familiaux sont forcément des liens d'amour. Or, c'est pas vrai du tout. Quand on voit plutôt ce que les patients et les patientes disent de leur famille, ça peut être un lieu de violence, un lieu de haine, un lieu de jalousie. Et avec son lot de maltraitance. Mais c'est vrai que ce fantasme de famille comme ça, qui veut que le bien de ses membres, reste encore très puissant. Ce qu'on constate plutôt même, c'est que les personnes qui ouvrent la parole, qui se délivrent avec la parole, sont plutôt mises au banc de la famille. Classiquement, on peut plutôt remarquer ça.
Ouais. C'est des victimes qui se retrouvent un peu seules.
Tout à fait. Ouais. Moi, je dis que c'est la deuxième violence faite aux victimes, quelle qu'elle soit. C'est qu'après la violence, il y a toute la violence faite autour de la silenciation de ce qu'elles ont vécu.
Pour terminer, quel message pourriez-vous adresser aux personnes qui ont vécu des violences intrafamiliales et qui hésitent encore à demander de l'aide ?
Alors c'est un chemin à parcourir, c'est pas facile de parler de ce qui a été vécu. Moi ce que je peux dire c'est que il y a des professionnels qui sont formés au psychotraumatisme. Il faut pas hésiter à pousser la porte des cabinets libéraux, des associations qui œuvrent sur place. Et puis pour aborder ces questions très intimes, difficiles, il faut se sentir à l'aise. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous, à voir si on se sent à l'aise avec le thérapeute qu'on a en face de soi, avec sa formation, avec ce qu'il est lui-même intrinsèquement, puisqu'on travaille tous dans ces milieux-là avec ce qu'on est aussi soi. Donc, si ça peut mal se passer une fois, il ne faut pas hésiter à recommencer une deuxième fois, en fait. Hein. Et puis, tenir bon, en fait, essayer de se faire aider. En tout cas, on ne guérit pas de ces psychotraumatismes seuls, ça c'est une certitude. Hein.
On remercie Laetitia Besson pour cet échange sur ces sujets sensibles et délicats. On rappelle le contact de son association Douceur, qui est située place de la Mairie à Peronna, au sein du pôle Santé Muséum. Le numéro de téléphone 06 22 59 40 96.
Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
D'ici là, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Bonne semaine à toutes et à tous.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.